Boomerang avec l'écrivain Philippe Lançon dont le roman si bouleversant Le Lambeau sort enfin en poche, en folio. Aujourd'hui, c'est un événement pour beaucoup qui ne l'ont pas encore lu ou qui vont le relire, l'offrir, peut-être le découvrir. C'est parti. Mais la bêtise, peut-on au moins s'en protéger? Je voue une passion, je dois vous avouer, pour un roman inachevé de Flaubert qui s'appelle Bouvard et Pécuchet, son tout dernier, et qu'on peut lire comme une encyclopédie de la bêtise, son fameux dictionnaire des idées reçues en étant une sorte de note de bas de page. Celui qui écrivait, du temps de Madame Bovary, « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent, j'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle comme on dort de bouse de vache les pagodes indiennes », s'écriait quelques années plus tard en écrivant Bouvard et Pécuchet. Ils m'emplissent à un tel point que je suis devenu eux, leur bêtise est mienne et j'en crève. C'est passionnant parce que ça nous dit que la bêtise est contagieuse et qu'on ne saurait y être imperméable. Et c'est l'ultime sagesse d'un écrivain qui a consacré sa vie à dénoncer la bêtise pour finalement s'y plier, malgré lui. Parce qu'on peut pas y échapper. La bêtise du copiste, comme le sont Bouvard et Pécuchet, c'est leur métier. La bêtise qui consiste à ressasser, à répéter, à redire encore et encore les mêmes choses, comme des perroquets. Ça vous arrive jamais, à vous, d'être accablé par votre propre bêtise dans une conversation ou dans un conflit? On peut se le faire remarquer. Mais la bêtise, tout compte fait, faut-il au moins s'en protéger?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Comment mon invité d'aujourd'hui se protège-t-il de la bêtise? Il est écrivain et critique littéraire de théâtre également, à mon sens l'un des plus grands. Son roman Le Lambeau, immense succès de librairie, distingué par le prix Femina et par un prix Renaudot spécial il y a un an et demi, sort enfin aujourd'hui en édition de poche, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce grand récit de la reconstruction. Bonjour Philippe Lançon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, qu'est-ce que vous appelez bêtise, vous?
Pour moi, la bêtise, c'est quelque chose qui fait qu'on colle entièrement à des discours et à des personnages qu'on prétend être. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se détacher de ça pour voir un minimum de ce qu'on fait, du monde dans lequel on est, des actions qu'on a, des paroles qu'on dit, un tout petit peu de l'extérieur.
Ça va aussi pour cette injonction qui nous est faite à longueur de temps de donner notre avis, surtout, tout de suite.
Oui, bah c'est-à-dire ça, je pense que cette injonction a plus ou moins toujours existé, mais évidemment elle s'est développée techniquement. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que la technique, dans l'histoire des hommes, elle détermine beaucoup de leur manière de penser et d'être.
Alors comment vous faites pour y résister ?
Ce qu'on peut faire, c'est bricoler, c'est-à-dire essayer de se ménager énormément de moments de silence, de distance, de reparvenir à se concentrer sur des choses qu'on aime.
Justement, lire un livre, Philippe, et là c'est autant au lecteur et à l'écrivain que je m'adresse aujourd'hui, quel geste, quel acte est-ce que c'est pour vous ?
C'est toujours un acte finalement solitaire. Que la fonction de critique que j'exerce depuis maintenant une quinzaine d'années, enfin même plus, hein,
plus.
Presque une vingtaine d'années, oui, ça ne nous rajeunit pas, eh bien cette fonction n'a pas modifié fondamentalement l'acte que c'était, qui consiste à prendre un rectangle de papier et à l'ouvrir et à suivre les situations, les personnages, les idées, là où elles me mènent, en essayant de, autant que possible, de me défaire à l'entrée des préjugés, des réactions et des réflexes appris que je pouvais avoir. Voilà, c'est comme ça que j'ai lu quand j'ai commencé à voyager. J'avais toujours des livres sur moi et j'ai toujours des livres sur moi. Et ça me servait à ça aussi, c'est-à-dire c'était aussi des accompagnateurs.
Et en quoi votre longue hospitalisation a-t-elle changé le regard du lecteur et donc du critique que vous étiez auparavant ?
Ce que l'hospitalisation a changé, je pense, si elle a changé quelque chose, c'est que elle m'a concentré sur mon expérience. Et donc, en particulier, quand je lis, d'une manière ou d'une autre, les livres se sont mis davantage, en tout cas ceux que je parvenais à lire, à nourrir cette expérience. Voilà. J'ai eu de plus en plus de mal à ne lire que pour me divertir.
Les livres ont joué évidemment un rôle considérable durant les longs mois que vous avez passés à l'hôpital, après l'attaque de Charlie Hebdo. Que vous ont-ils apporté de si précieux, en vrai ? En réalité, les livres, Philippe Lançon ?
D'abord, il y avait peu de livres hein, quand même, et puis je lisais très lentement. Ça a été des amis, des éclaireurs, c'est-à-dire que j'entrais dans des territoires qui m'étaient inconnus. Cette longue expérience hospitalière, mais également l'expérience de la blessure, d'un certain type de souffrance, des descentes au bloc, des remontées d'anesthésie, tout un tas de choses qui beaucoup de gens ont vécu parmi ceux qui nous écoutent, mais que là je vivais vraiment à répétition et de manière extrêmement intense, comme une sorte d'athlète. Et donc, voilà, les livres, en tout cas certains livres, de Kafka en particulier, et de Thomas Mann, oui, c'était des éclaireurs, comme dans les westerns.
Vous écrivez aussi, à défaut de trouver des mots suffisamment vierges et fluides, je relisais sans cesse ceux des autres. À quel moment est-ce que vous avez fini par les trouver, les vôtres ?
Ben, je les ai trouvés en deux temps. D'une part, j'ai très très vite quand même écrit d'abord un article dans Libération, puis ensuite des chroniques dans Charlie, qui rendait compte finalement de ce que j'étais en train de vivre. Mais c'était pour des journaux, donc cette chronique n'était pas entièrement intime. Elle était destinée à des lecteurs. Le journal, c'est un lieu de compromis où le journaliste n'est pas là pour raconter sa vie. Il se trouve que là, le sujet de l'expérience, du reportage, c'était ma vie à l'hôpital. Mais sans aller jusqu'à, de toute façon, je n'en avais pas les moyens à ce moment-là, à une exploration intérieure que le livre, le Lambeau, lui, a faite, mais beaucoup plus tard. Je pense que c'est un livre qui est écrit, entre guillemets, comme un roman. C'est-à-dire, je tenais absolument à ce que ce soit un récit, au sens où des tas de choses que j'ai vécues dans l'environnement dans lequel on était, à la fois politique, etc., n'ont pas de réponse. Voilà. Donc, en ce sens, ce n'est ni un essai, ni une tentative d'analyse philosophique ou je ne sais quoi. C'est vraiment un récit. Et le récit, c'est pas un endroit où on a des réponses. C'est un endroit où on raconte des histoires à partir de situations et voire de questions qu'on se pose. Et voilà. La réponse, c'est le récit.
Alors, je vous pose une question dont vous apportez certaines réponses. D'ailleurs, dans le livre, qu'est-ce que c'est un corps pour vous? Cette question, elle hante tout le livre. J'ai l'impression.
Oui, oui, comme vous le savez, elle est quand même au cœur de la littérature, d'une partie de la littérature contemporaine. Et pendant longtemps, finalement, le corps, il n'a pas existé dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on parlait pas de ce que vivait le corps, de ce que c'était que la maladie. Mais je relisais il y a pas longtemps un texte de Virginia Woolf sur la maladie. Et elle dit, ben voilà, il faudrait quand même trouver une langue pour parler de la rage de dents. De manière très concrète, je n'avais pas pensé à ce texte quand j'ai écrit le Lambeau, je l'ai vraiment relu récemment, parce qu'il me semble que je l'avais lu il y a quelques années. Et alors peut-être qu'il était là dans mon inconscient. Comme souvent avec Virginia Woolf, elle a une extraordinaire manière, en partant du détail, de la vie vraiment dans ses moindres détails, d'aller vers justement le plus de profondeur possible. Elle va le plus loin possible à partir de ça. Et effectivement, dans le Lambeau, à ma modeste manière, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire montrer ce que c'était aussi que la vie du corps dans son lien avec l'esprit, avec cet autre mot galvaudé qui est l'âme. Hein. Moi, je suis allé aussi loin que possible dans cette direction.
En tout cas, c'est passionnant parce que la référence à Woolf fait du corps un lieu de conquête et de reconquête, y compris langagière, y compris littéraire.
Oui, bien sûr, oui, parce que en fait, je me souviens très bien qu'à l'hôpital, à un moment donné, il y avait des choses tellement pénibles, physiques, voilà, qu'il y a un moment donné où je suis quand même parvenu à me dire, il faut que tu enlèves tout l'aspect moral de cette histoire. C'est-à-dire, il faut absolument que tu vois ce que tu es en train de vivre comme une véritable expérience qui va t'apprendre quelque chose sur ton corps. Donc, je n'avais pas le choix. Et à un certain moment, j'en ai tiré les conclusions littéraires, vous voyez. Mais c'est-à-dire quand même plus de 2 ans plus tard.
À l'origine de votre goût pour l'écrit, Philippe, il y a une rencontre, la rencontre avec Blaise Cendrars. Quel choc est-ce que ça a été pour l'adolescent que vous étiez alors, la découverte de ce poète?
Comme vous savez, on connaît l'histoire qu'il a dit souvent. On lui demandait s'il avait pris le Transsibérien, puisqu'il a écrit la prose du Transsibérien. Oui. Et il répondait, qu'est-ce que ça peut vous foutre, puisque je vous l'ai tous fait prendre. En fait, ben, moi aussi, je suis monté à bord du Transsibérien. Et surtout, plus encore, de ses poèmes qu'il écrivait quand il partait au Brésil sur un paquebot. Et en fait, non seulement j'ai voyagé vers le Brésil, pays où je ne suis jamais allé par ailleurs, mais d'autre part, à travers ça, dans le texte. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où je me suis retrouvé dans un espace qui était à la fois géographique et mental. Et ça, c'est ce que les poèmes de Cendrars m'avaient donné.
Tu es plus belle que le ciel et la mer, 1924. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton amie, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses. Des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre. Et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre. Les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant. Ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos, je t'aime. Quand tu aimes, il faut partir, ces vers, comment est-ce que vous les entendez, Philippe Lançon? Surtout, comment est-ce que vous les avez entendus à l'époque, plutôt?
À l'époque, j'avais, je sais pas, 16-17 ans, comme une injonction.
À partir?
Voilà. Oui, quand tu aimes, il faut partir. Quand tu aimes, la question c'est qu'est-ce que tu aimes, qui tu aimes. Moi, j'étais un perpétuel amoureux, mais un peu transi, vous voyez, à distance, à ce moment-là. Et puis j'étais évidemment, c'est vrai, je vivais en banlieue, dans des conditions correctes, hein, il n'y avait pas de milieu plutôt bourgeois. Mais donc dans cet espace très particulier de la banlieue, où effectivement, qui est un espace sans horizon, il se passe pas grand-chose dans ces endroits-là. Enfin, et donc il y avait une injonction à aimer et à partir. C'est précisément parce qu'on aime aussi qu'il faut partir, parce que cet amour doit, il ne doit pas rester une sorte de petite possession. À domicile, c'est quelque chose qui doit vous faire ouvrir la porte, la fenêtre, sauter, partir, pour l'appliquer à toutes les choses de ce monde.
Et donc possiblement écrire, Philippe.
Et possiblement écrire. Et donc effectivement, il y a dans ce merveilleux poème, c'est quand tu aimes, il faut écrire, qu'on entend aussi. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu à ce moment-là...
Et dans quelle mesure, pour vous, est-ce qu'écrire, cela revient toujours, encore aujourd'hui, à partir, à quitter quelque chose?
Quand on écrit, enfin toute personne qui écrit vraiment le sait, c'est que au moment où on se met à écrire, on ne sait pas ce qu'on va écrire. Donc on commence, on peut avoir un plan, un projet, et puis chaque jour qui vient. Mais précisément, l'écriture, c'est toujours un voyage. C'est-à-dire que véritablement, même si demain je vais me mettre à écrire, je sais que je vais écrire une histoire, ou c'est comme une carte avant de voyager. Mais ça ne vous dit rien du voyage. Voilà, une fois qu'on part véritablement, il va se passer tout à fait autre chose. Et sur la page, quand on écrit, c'est pareil. C'est-à-dire que le plan a beau être aussi précis que possible, quand on va se mettre à écrire, il va se passer des choses qu'on n'avait pas prévues.
Et si, quand tu aimes, il faut partir, Philippe Lançon, est-ce qu'écrire, c'est toujours un acte d'amour?
Bah oui, je pense que quand même, même d'ailleurs quand on décide d'écrire contre, c'est-à-dire par un pamphlet ou quelque chose comme ça, moi je pense à un merveilleux pamphlétaire comme Bernanos, on sent toujours, effectivement, une forme d'amour, soit pour des idées, soit pour un certain type de combat. Et même si c'est un amour déçu, et donc la mise en scène par l'écrit d'un amour violemment déçu, eh bien, dans Amour déçu, il y a toujours amour. C'est-à-dire, voilà, il est en lutte avec la déception, et ça peut donner d'ailleurs de très grands textes.
Mais c'est passionnant, parce que dans Le Lambeau, vous écrivez « J'avais des sentiments pour mes amis, je n'avais plus d'amour pour personne ».
Au moment où je vivais ça, dire que j'avais de l'amour pour tel ou tel, c'était très difficile. C'est-à-dire, je pense que, comme je l'ai dit, j'étais comme un nourrisson qui n'a guère d'amour que pour lui-même. Enfin, c'est-à-dire, ou alors une espèce d'amour panthéiste, vous voyez, général, parce que tout m'intéressait. Mais on m'a dit aussi, ah mais t'avais de l'amour pour ta chirurgienne, pas du tout. J'avais de la dépendance envers ma chirurgienne et une sorte d'affectivité inévitable pour elle, c'est-à-dire c'était elle dans ma vie et ma gueule dépendait. Et donc, comme un petit enfant, il fallait que je me l'attache et que je la séduise, vous voyez. Mais en ce sens, d'ailleurs, j'étais pas un patient extraordinaire. Je pense que c'est le cas de tous les patients dont la vie est en jeu d'une manière ou d'une autre.
Il a donc fallu écrire pour retrouver la possibilité de l'amour.
Oui, voilà, c'est ça. Et probablement restituer cet amour à ceux qui, eux, à ce moment-là, me l'ont donné. Quand je dis amour, ça peut être un amour amical, vous voyez. Beaucoup des personnes qui sont dans ce livre, à ce moment-là, ont quand même suspendu leur vie pour m'aider. Et ça, à ce moment-là, le nourrisson que j'étais le savait, mais finalement trouvait ça naturel. Et l'écrivain qui ensuite a écrit Le Lambeau, lui, évidemment, il a pris sa distance avec ça. Et donc, il s'agit de faire comprendre ce qu'il y avait en jeu à ce moment-là et comment l'amour a circulé.
Alors aujourd'hui, près de 4 ans après l'attaque de Charlie Hebdo, y a-t-il en vous de nouveau assez de place pour l'amour ?
Oui, je pense qu'il y en a, enfin j'espère en tout cas, et j'espère aussi que c'est la place que cet amour a me permettra et me permet de nouveau d'écrire des textes au long cours. Jamais je n'ai arrêté d'écrire des articles.
On va reparler évidemment de tout cela juste après un peu d'amour, on le mérite bien, hein. Tous ensemble, toutes et tous les auditeurs de France Inter, ce vendredi matin de début d'année. Johnny Hartman and the Coltrane Quartet, évidemment vous connaissez, c'était en 1963, My One and Only Love, vous êtes sur France Inter avec Philippe Lançon, vous écoutez Boomerang, évidemment.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Avec son cheveu, sa barbe poivre et sel, on sait qu'il revient de très loin. Mais son regard, pourtant, loin d'être obscurci par tout ce qu'il a vu, c'est resté lumineux. Lorsqu'il vous regarde dans les yeux, il n'y a pas besoin de mots, il suffit de se tenir tout près de lui pour tout savoir, ou presque, avec son pull marin, mais marron et bleu marine. Ce matin, l'écrivain Philippe Lançon, invité de Boomerang pour parler de littérature, mais aussi de musique, pourquoi pas, et plus particulièrement de jazz, ce genre qui compte tant pour vous. Quelle musique est-ce que c'est pour vous, le jazz, tiens ?
Bah, le jazz, je vais dire, je le crains des banalités, c'est une musique qui est associée à l'arrivée de la nuit.
C'est loin d'être une banalité, Philippe.
À l'alcool, et à la conversation, et après, à la nuit elle-même. Donc, par exemple, à l'insomnie. Je trouve que quand on a des insomnies, s'installer dans une pièce quasiment sans lumière ou avec lumière et se mettre à écouter par exemple Coltrane, mais ça peut être, moi la nuit c'est plutôt Billy Evans quand même, Coltrane je le laisse probablement pour la fin de l'après-midi.
Quand vous regardez par exemple les photos de John Coltrane, Miles Davis ou encore Eric Dolphy prises par Francis Wolff, l'un des fondateurs du label new-yorkais Blue Note dans les années 50, qu'est-ce que vous voyez ?
Oh, la classe. Donc la classe absolue avec cette chose très particulière au jazz, donc pour l'essentiel des hommes noirs, pas seulement mais quand même très souvent, qui ont traversé, parce que c'était ces années-là, les années 50-60, des épreuves cruelles, en particulier à cause de la drogue. Beaucoup ont connu la prison à cause de ça. Et il y avait le racisme. Ils jouaient dans des lieux où ils ne gagnaient pas forcément très bien leur vie. Enfin, tout ça était complexe. Et en fait, en même temps, c'est la musique. Donc, on peut dire vraiment, quand on connaît l'histoire du jazz, ça vient du peuple. Et c'est la musique la plus raffinée qui soit. Le jazz n'est jamais vulgaire.
Cette passion pour le jazz, c'est quelque chose que vous partagez avec Cabu. Et le livre de photos que j'ai évoqué, il se trouve qu'il a joué un rôle que vous ne pouviez soupçonner dans votre destin, Philippe Lançon.
Effectivement, le 7 janvier 2015, à la fin de la conférence de rédaction, je me suis levé, Cabu s'est levé, et puis je lui ai montré, parce que je voulais lui montrer, un livre de jazz sur lequel j'avais écrit, donc des photos réalisées par Francis Wolff pour Blue Note, donc des photos vraiment, vraiment sublimes de jazzman, et en particulier une photo d'Elvin Jones, parce que quelques années avant, j'avais écrit un texte sur Elvin Jones, que Cabu avait illustré. Enfin, Cabu avait fait un dessin à côté parce qu'il se souvenait lui-même d'un concert qui était en plein air dans le sud de la France. Et l'orage avait tout à coup explosé, vidant littéralement les arènes. C'était dans des arènes, là, je ne sais où. Et Elvin Jones, comme un dieu, était resté avec sa batterie dans l'orage qui se mettait à éclater, comme si c'était lui-même qui finalement avait déclenché l'orage, allait le maîtriser et éventuellement le réduire. Mais surtout, le dieu de l'orage, c'était lui. Et ça apparaissait dans le dessin. Je m'en étais servi dans le texte. Et donc, je pense qu'une dizaine d'années avaient passé et j'avais cette photo magnifique de Jones avec ses deux baguettes là, et une, si je me souviens bien, une cigarette. Vraiment magnifique. Une espèce de géant extraordinaire. Et c'est donc à peu près au moment où je refermais le livre que nous avons entendu les premiers cris et les premiers coups de feu.
Ce livre, vous l'avez toujours ?
Oui, je l'ai toujours. Il est chez moi, il est rangé. Et effectivement, comme je l'écris dans le lambeau, il est scellé par le sang. Puisque quand je l'ai récupéré quelques mois plus tard, en fait, les pages étaient... j'étais allé chez ma kiné et un coursier me l'avait apporté à l'hôpital. J'étais encore à l'hôpital des Invalides en permanence. Et j'ai trouvé le coursier sur le chemin. Je sortais pour aller chez la kiné qui était vraiment juste à côté. Et donc, je prends ce livre et je l'ouvre dans la salle d'attente. Et je ne pouvais pas l'ouvrir parce que les pages étaient reliées en elles par le sang séché. Et j'ai commencé à détacher ces pages pour retrouver en particulier la photo d'Elvin Jones.
Vous écrivez « Le jazz m'avait aidé à vivre, le livre à ne pas mourir, les deux, désormais, étaient signés ».
Voilà, ils sont signés parce que je me suis perdu dans des labyrinthes pour savoir si j'avais pas montré ce livre à Cabu. J'étais pressé, donc est-ce que je serais sorti 2 minutes plus tôt, est-ce que, vous voyez, etc., etc. Et évidemment, c'est des réflexions qui, en réalité, n'ont aucun intérêt. Ce qui a lieu, c'est ce qui devait avoir lieu. Et c'est comme ça, la vie. Par contre, quand on écrit, ça peut devenir plus qu'intéressant, essentiel, d'imaginer ce qui aurait pu être.
Vous avez choisi de nous faire entendre ce matin une voix, celle du critique et intellectuel Paul Léoto, Philippe Lanceau, au micro de Robert Mallet sur la radio de service public. C'était en 1951.
Aujourd'hui, je ne démarre pas un écrivain. Car soit appris, à mes yeux, il est déshonoré. Déshonoré ! Je publierai prochainement un fragment encore de journal dans le Mercure où je donne le nom de tous les gens qui ont eu des prix et je termine par ceci. Je dis carrément ma pensée, un écrivain, car soit appris littéraire, est déshonoré.
Pourquoi cette archive, Philippe ?
D'abord, vous m'avez demandé une voix et Paul Léoto, c'est une voix. En plus d'être, pour moi, un excellent écrivain.
À quoi ça tient, une voix?
Eh ben, là, vous entendez, c'est-à-dire une sorte de... Même la manière dont il fait, vous savez, c'est cette espèce d'onomatopée, là. Comme ça, cette cri d'exaspération. On entend tout, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une voix? C'est quelque chose qui porte une présence et un physique. On a beau ne pas avoir vu Léoto, on voit le type de vieillard que c'est à ce moment-là, comment il peut être. On entend sa canne qui tape derrière, on voit le vieil atrabilaire entouré de chats, vous voyez, on sent presque la piste de chat qui rôde autour, et pour moi c'est ça une voix, c'est quelque chose qui porte, et c'est pour ça que la radio est merveilleuse, elle porte une présence sans qu'on ait besoin de voir, elle permet de voir sans voir. Et donc c'est particulièrement vrai pour ces entretiens de Robert Mallet avec Léoto, qui date je crois de 50 ou 51.
51 celui-là.
51. Et d'autre part, là, il y a en plus maintenant ce qu'il dit. Donc, oui. C'est très drôle parce que, évidemment, moi, j'ai eu des prix littéraires, là, pour Le Lambeau. Et bien entendu, j'en ai été très touché.
Le prix Femina. Prix Renaudot Spécial.
Le prix Roger Caillois, qui, pour des tas de raisons, me touchait aussi beaucoup. Donc, bien sûr, j'en étais honoré et fier. Mais c'est toujours bien, même quand on est honoré et fier, d'avoir la petite voix aigre et plus qu'espiègle.
Qui vous dit que quand vous les acceptez, vous êtes déshonoré.
Ouais, vous êtes déshonoré. C'est-à-dire que voilà, la vie, elle est pas unie, vous voyez. C'est-à-dire, il faut toujours avoir cette voix en soi qui vous dit, te prends pas pour la somme de prix que tu as eue si tu crois que ça te donne une dignité que tu n'as pas forcément.
Et c'est donc, tout à votre honneur, cette humilité, Philippe Lançon. Mais moi, ce que j'entends dans la voix de Paul
Par ailleurs, on a le droit de rire. Hein.
Oui, mais c'est aussi l'esprit de subversion, l'esprit d'insoumission.
Oui, d'insoumission et de contradiction, parce que lui-même, dans un autre passage du même entretien, explique que le Goncourt, il avait concouru pour l'avoir à un moment donné. Donc voilà, et ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire que la vie, elle n'est pas unie, et les gens, et on le sait beaucoup pour les écrivains et les artistes, la cohérence de ce qu'ils font et l'unité qu'il peut y avoir, elle est dans leur œuvre. Dans leur vie sociale, dans les prix qu'ils cherchent à avoir, les manœuvres qu'ils font, c'est des hommes comme les autres, avec parfois plus de moyens que les autres d'être contradictoires, d'être méchants, d'être ceci, d'être cela. Et ça, ça fait partie de la comédie de la vie, et il faut l'accepter aussi. Voilà.
C'est intéressant parce que le texte que vous nous avez écrit spécialement pour cette émission répond justement à ces questions. J'aimerais vous l'entendre lire, si vous le voulez bien, Philippe Lançon.
On me dit ce qu'il faut penser de Macron, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de Mélenchon, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de ce que je mange, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de ce que je mets, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de ma manière de me déplacer, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser du sport que je pratique, des soins que je suis, des rendez-vous que je prends, des entretiens que je donne, de ceux que je ne donne pas, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser des hommes politiques, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de leurs électeurs, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser du journalisme, des syndicats, des policiers, des cités de banlieue, des centres-villes, de l'état du pays, du peuple, des bourgeois, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de la littérature et du cinéma, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de Trump, de Bolsonaro, de Johnson, de Poutine, du Brexit, de la Chine, de l'Inde, de Wall Street, de Gauguin, de Balthus. De la charcuterie, des potimarrons, des 4x4, des trottinettes électriques, des vinyles, des CD, de Spotify, de Greta Thunberg, du système de santé, du système d'éducation, de ceux qui font grève, de ceux qui ne la font pas. Mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de la réforme des retraites, mais je n'y comprends rien. On me dit ce qu'il faut penser du système fiscal, mais je n'y comprends rien. On me dit ce qu'il faut penser des gilets jaunes, mais je n'en sais rien. On me dit comment il faut parler aux femmes et comment il faut éduquer les enfants, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser du réchauffement climatique, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de la fin du monde, mais je n'en sais rien. On me dit ce qu'il faut penser de tout. Et plus on me le dit, plus on exige de moi que je sache, que je comprenne, que je me décide, que je devienne un citoyen héroïque, informé, engagé, bien sous tout rapport. Plus je n'en sais rien. On me dit même ce qu'il faut penser du Père Noël, mais je n'y crois plus. Est-ce que je sens le sapin ? J'ai besoin de calme, de silence, de solitude, de bienveillance, d'amis, de respiration, de flottement. Et j'ai besoin de laisser vivre autant que possible l'essaim de doute qui m'enveloppe et me suspend. Je préférerais perfectionner mon silence plutôt que de proférer des opinions. On me dit qu'il faut que je parle, que j'affirme, que je proteste, que je crie, que je m'indigne, que je ricane, que je manifeste, que je résiste, que je me sente victime, blessée, insultée, injuriée, manipulée, escroquée. Mais même quand ça m'arrive, je préfère me taire parce que le plus souvent, je n'ai rien à dire. On me dit qu'il faut rejoindre le camp du bien, mais il est partout, à gauche, à droite, devant, derrière, dessus, dessous. Il est partout, et moi, je ne me sens nulle part. On me dit que je dois m'installer dans ce camp, quel qu'il soit, mais moi, quand les tentes et les palissades sont plantées, quand les gardes sont installés dans les tours de guet, je n'ai plus qu'une envie, filer discrètement dans la nuit. J'ai envie de la rejoindre dans une chambre d'hôpital, par exemple aux Invalides, et de regarder depuis mon petit lit redressé à 30% le dôme lumineux du tombeau de Napoléon, et enfin de dormir, dormir, rêver peut-être. On me dit qu'il ne faut pas, mais ça, je ne le crois pas.
Merci infiniment, Philippe Lançon, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour votre générosité ce matin. Je dois vous dire quelque chose, en fait. Je me souviens de vous lorsque j'étais un très jeune journaliste, tout juste sorti de l'agrégation. Je crois que je travaillais pour le magazine Elle, et vous aviez accepté de me rencontrer. C'était au café Nemours à Paris, et nous ne nous sommes plus jamais revus, mais vous m'avez donné un conseil en partant. Vous m'avez dit, écrivez des portraits. En ce sens, je vous le dis, cette émission, quelque part, je vous la dois. et je vous en remercie. Je rappelle que Le Lambeau sort aujourd'hui en édition de poche chez Folio et que vous y faites vibrer une langue d'une douceur, d'une force, d'une beauté saisissante. Tout le monde devrait le lire. Tout de suite, les médias, l'instant M, juste après ça.
Dans le cœur d'une montre arrêtée, le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. Le maître dit respirer. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses. C'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis. Et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver. Donc la retrouver, il va la retrouver, il va la retrouver.